En Australie, la situation est toujours catastrophique sur le front des incendies. Des centaines de feux de forêt font toujours rage à travers tout le pays et les pompiers se préparent à un regain de feu en raison d'une nouvelle vague de chaleur.
Comment c'était cette nuit? Voilà, racontez-nous.
L'apocalypse. Voilà, je vous dis franchement, des rochers partout qui roulaient, incroyable, incroyable. On n'avait jamais vu ça, c'était angoissant.
Ce sont les villages autour d'Ajaccio qui sont touchés depuis hier soir.
C'est une vision cauchemardesque avec laquelle se sont réveillés les Philippins en ce jour de Noël. Des habitations détruites, des arbres déracinés et l'électricité coupée dans certaines régions, avec des rafales pouvant atteindre 195 km/h.
Des vents forts, la pluie qui s'est abattue sur la ville dès l'aube ce matin et cette marée qui monte, l'eau qui envahit la lagune de Venise. Et on peut voir ici clairement l'eau qui se faufile un peu partout. Là, cette place Saint-Marc où je me trouve complètement transformée en piscine.
L'Australie brûle et tout le monde regarde le feu d'artifice. Cela pourrait être le titre des journaux demain après un réveillon marqué par les méga-feux à l'autre bout du monde, là où on entre dans l'année nouvelle avant tout le monde justement. Comme un symbole d'une décennie qui s'ouvre et qui sera certainement celle de l'expérience après la prise de conscience de l'anthropocène. Les événements climatiques dramatiques se sont accumulés aux quatre coins de la planète, sont venus clore une décennie de prise de conscience, donc celle de la différence, sinon de nature, au moins d'intensité et de fréquence de catastrophes qu'on disait autrefois naturelles. Mais voilà, les causes humaines ne font plus de doute. Les mesures pour y répondre font-elles beaucoup moins consensus, comme vient de le rappeler l'échec cuisant de la COP25 à Madrid. C'est pour tenter de saisir et d'illustrer globalement ce concept mouvant et encore controversé d'anthropocène que notre invité, François Gemène, a publié un atlas aux presses de Sciences Po et peut-être aussi pour en faire désormais moins un objet de constat que d'action. Bonsoir François Gemène.
Bonjour.
Alors vous êtes chercheur à l'Université de Liège, enseignant à Sciences Po et membre du GIEC, spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement et des migrations internationales. Cet atlas, vous l'avez élaboré avec Alexandra Rankovic, qui est docteur en écologie, et avec l'atelier de cartographie de Sciences Po. Nous allons évidemment le feuilleter avec vous, mais peut-être pour commencer un mot sur ces épisodes dits extrêmes, notamment les incendies qui ravagent en ce moment l'Australie et qui renvoie à d'autres catastrophes, comme je le disais, dites naturelles. Est-ce que on ne s'habitue pas finalement à voir ces épisodes catastrophiques extrêmes? Qu'est-ce qu'ils disent de la décennie qui s'achève et de celle qui commence?
Je dirais qu'il faudra forcément s'y habituer et que ces événements que nous qualifions jadis d'extrêmes ou d'exceptionnels seront amenés dans le futur à devenir de plus en plus réguliers, de plus en plus intenses, et quelque part l'exceptionnel va devenir peu à peu la norme. On a coutume de dire que 2019 a été une mauvaise année pour le climat, 2020 sera forcément encore pire et 2021 forcément encore pire, puisqu'il faut savoir que les résultats, les conséquences de nos émissions de gaz à effet de serre vont produire des effets avec environ 50 ans de retard. Ce qui veut dire que les phénomènes un peu extrêmes que nous connaissons en 2019 et ces années-ci plus globalement, eh bien sont le résultat non pas de nos propres émissions de gaz à effet de serre, mais des émissions de gaz à effet de serre du passé. Et comme nous n'avons pas cessé d'augmenter ces émissions, ça veut dire que les choses sont en quelque sorte condamnées à aller de mal en pis pour les 50 prochaines années.
Merci pour la perspective, François Gemène.
Je suis désolé, c'était pas très réjouissant.
Non, mais malgré tout, vous dressez un certain nombre de possibilités. On en parlera un peu plus tard dans l'émission, notamment de possibilités politiques pour peut-être éviter la sortie de route, mais limiter le nombre de tonneaux. C'est une expression que vous aimez utiliser, François Gemène. Alors, parlons de cet ouvrage qui est donc un atlas, un ensemble de cartes et de graphiques avec accompagné de textes. Évidemment, on parlera de la structure, mais tout d'abord, cet ouvrage qui est assez pionnier, hein, essaye de cartographier, donc de mettre en infographie un concept qui est celui d'anthropocène, qui a apparu récemment, qui maintenant est assez familier à un certain nombre d'auditeurs qui s'intéressent à ces questions environnementales, mais qui malgré tout est un concept mouvant. Comment le mettre en carte et en graphique? Est-ce que c'est une façon de le fixer, François Gemène?
Je dirais qu'effectivement, la richesse du terme d'anthropocène, c'est que c'est un concept mouvant et polymorphe. Et donc il y a au départ, la définition géologique de l'anthropocène, cette nouvelle période géologique dans laquelle nous serions entrés et qui se caractérise par le fait que l'empreinte humaine est désormais visible dans les couches sédimentaires de la Terre. Et puis, il y a plus largement une définition politique qui nous impose de revoir notre relation à la Terre, de considérer la Terre non plus comme un objet de politique, mais comme un sujet de politique, et qui nous dit que notre histoire à nous, humains qui peuplons la Terre, elle est influencée par la Terre, et que donc il importe désormais de reconsidérer notre rapport à cette Terre et quelque part de trouver de nouvelles cartes pour gouverner cette Terre nouvelle, et c'est l'ambition de cet atlas.
Vous avez été au début des années 2000 engagé auprès des Verts en Belgique, François Gemène, vous êtes maintenant chercheur, et on l'entend dans ce que vous dites, il y a une façon, et c'est une idée qui s'est imposée aussi dernièrement, de lier la question sociale avec la question environnementale, de dire que les deux sont évidemment inséparables, et donc ça se traduit dans votre atlas de l'Anthropocène par une démarche qui est celle d'allier ce qu'on appelle les sciences sociales avec les sciences dites dures, bon, forcément, on pourrait discuter de cette approche des sciences dites dures, mais en tout cas, voilà, des sciences de la Terre, par exemple, ou des sciences naturelles avec les sciences sociales.
Il y a quelque chose de dramatique, en effet, dans la manière dont nous produisons et dont nous organisons la connaissance, pas seulement en France, mais dans l'ensemble des pays occidentaux. C'est-à-dire que l'on va séparer les sciences naturelles, qui en quelque sorte vont être les sciences de la Terre, et les sciences humaines et sociales qui vont être les sciences du monde, de l'organisation politique et sociale de la Terre. Comme si la Terre et le monde étaient deux choses différentes, et comme si la Terre et le monde obéissaient à des lois, à des sciences différentes. La réalité de l'Anthropocène, c'est qu'il faut considérer les deux comme une seule et unique entité, et que dès lors, on ne peut plus aujourd'hui séparer distinctement les sciences de la Terre des sciences sociales. On ne peut pas, quelque part, comprendre l'une sans comprendre l'autre également. On ne peut pas considérer que ce qui se passe dans le monde n'a aucune influence sur la Terre.
Mais ça suppose de trouver un langage commun. C'est souvent ce sur quoi bute la coopération entre ces deux mondes presque distincts, même si on voit de plus en plus, hein, même au sein des universités ou d'institutions comme Sciences Po à laquelle vous participez, se créer des lieux de rencontre et de discussion pour essayer de dégager un langage commun. Est-ce que passer par des cartes, une cartographie, est-ce que passer par des graphiques associés évidemment, encore une fois, à du texte, c'est une façon de trouver ce langage commun.
Je pense que c'est en tout cas un premier pas pour essayer de trouver ce langage commun, pour essayer de, quelque part, donner une base commune à l'ensemble de ceux qui s'intéressent à ces questions, pour montrer comment ces questions sont profondément reliées les unes aux autres. Et c'est vrai que aujourd'hui, où les questions environnementales sont de plus en plus présentes dans l'actualité, et c'est tant mieux, on a parfois l'impression qu'elles sont encore traitées de façon éparse, distincte les unes des autres, alors qu'en réalité, il faut montrer comme ces questions sont profondément liées les unes aux autres. Et donc, même si vous avez raison de dire qu'il y a quelques initiatives en recherche pour rapprocher les sciences naturelles des sciences sociales, ce n'est pas encore le cas pour l'enseignement. On a encore aujourd'hui des filières qui sont profondément cloisonnées, avec le résultat, par exemple, qu'en France et en Europe, la plupart des dirigeants suivent une formation qui ne leur parle pas du tout des questions d'environnement, et qu'ils vont donc considérer comme des questions secondaires par rapport à des questions d'ordre fiscal ou budgétaire, simplement parce que dans leur formation, on ne leur a jamais dit que c'était un élément essentiel du gouvernement. Et donc il y a, à mon sens, un véritable enjeu en termes d'enseignement, et c'est pour ça qu'on a voulu donner à l'Atlas aussi non seulement cette dimension de recherche, mais aussi, et peut-être surtout, une dimension pédagogique.
Alors, des enjeux en termes d'enseignement, j'imagine aussi des enjeux en termes épistémologiques, pour prendre ce terme qui définit en quelque sorte la façon de mener les recherches, François Gemène. Comment est-ce que vous avez constitué la base de données qui donne naissance à ces cartes, puisque, je l'ai dit en ouverture d'émission, maintenant avec le GIEC, il y a une forme de consensus scientifique, mais malgré tout, on efface, que ce soit la question du réchauffement climatique, mais aussi la question des pollutions que vous abordez, la question du trou de la couche d'ozone, les questions démographiques, la biodiversité, bref, l'Anthropocène, ce n'est pas seulement le réchauffement climatique, c'est aussi tout ça et bien d'autres choses. Comment est-ce que vous avez constitué, j'allais dire, la base de données qui donne naissance à cet atlas, François Gemène?
Notre ambition, c'était véritablement de donner à voir ce qui se joue, ce qui se trame, pour que chacun puisse prendre conscience de l'amplitude du problème, de l'ampleur de cette transformation, mais aussi des moyens d'y répondre et des moyens de les résoudre. Et donc, pour constituer les bases de données, nous avons chaque fois essayé de faire la synthèse des différents travaux existants et de montrer où étaient les limites de la science. Pour chaque planche, nous avons essayé d'insérer une petite capsule qui montre les limites de la science et en tout terme, qui montre les incertitudes, ce que l'on ne sait pas encore. Et puis nous avons réfléchi avec l'équipe des cartographes de Sciences Po à la manière de les mettre en infographie, de les visualiser. Et donc l'Atlas ne s'inspire pas d'une seule source, mais d'une multitude de travaux scientifiques que nous avons essayé justement de mettre en carte, de mettre en image pour que chacun puisse se les approprier.
Parce qu'il y a un véritable enjeu sur la neutralité, la robustesse des informations, en tout cas des données qui sont mobilisées quand on tient un discours sur le changement climatique, son réchauffement, évidemment ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire son côté inéluctable et en même temps la possibilité, puisqu'il est fondé sur une question, il y a aussi une question sociopolitique qui est en jeu, la possibilité au moins de s'adapter et de remédier dans une certaine mesure, en tout cas de ne pas empirer encore plus les choses, François Gemène. Malgré tout, on est dans un domaine qui reste très soumis à ce qu'on appellerait les fake news ou l'infox, dans sa version française. Comment est-ce que vous voyez-vous cette persistance de l'infox, du climato-scepticisme, parfois jusqu'au plus haut niveau de certains États, les États-Unis évidemment, le Brésil plus récemment. Comment est-ce que vous percevez ça? Est-ce que vous pensez encore que l'attitude de passer par le savoir, comme ce qui a été votre choix en quittant la politique, c'est une bonne façon de faire?
Je perçois effectivement cette résurgence du climato-scepticisme et plus globalement des mises en cause de la science comme un dommage collatéral inévitable du fait que les questions d'environnement sont devenues aujourd'hui une des questions importantes dans le débat public et un sujet politique important. Et donc, comme tous les sujets politiques, les questions d'environnement vont naturellement susciter des controverses, des divergences quant aux moyens à mettre en œuvre pour les traiter, et beaucoup vont attaquer la science parce qu'ils auront compris qu'un des bons moyens d'attaquer les politiques climatiques ou environnementales qui s'appuient sur la science, ça va être de mettre en cause la science directement. Et donc, quelque part, la science constitue une cible facile pour ceux qui veulent attaquer les politiques qui en découleraient. C'est, je dirais, une conséquence inévitable du fait, heureux, que les questions d'environnement soient devenues un élément central du débat public.
Alors, il faut multiplier les focales, on l'a bien compris, pour comprendre ce phénomène complexe, pour essayer d'en embrasser toutes les imbrications. Il y a la question des sciences sociales, on n'a pas évoqué, par exemple, la question de la philosophie. On voit aussi des philosophes s'emparer de cette question-là ces derniers temps. Je pense notamment au dernier livre de Joël Zask, qui est une philosophe qui a travaillé sur les méga-feux. Je propose de l'écouter, elle était au micro de la Grande Table sur France Culture, c'était en septembre dernier.
La caractéristique des méga-feux, c'est qu'ils sont proprement incontrôlables, inextinguibles. Donc l'idée qu'ils nous échappent n'est même pas, en quelque sorte, intégrée dans le logiciel que nous mettons en place pour y faire face. Alors Trump, comme Poutine d'ailleurs, ou Bolsonaro, en prennent acte, enfin disons en tout cas témoignent de ce qu'effectivement, si les feux sont incontrôlables, c'est parce qu'il y a une faute humaine. Et que cette faute humaine, elle est à très court terme, c'est un défaut des forestiers, c'est un défaut des responsables des forêts et des parcs naturels. Donc la faute est imputable aux pompiers, la faute est imputable à l'homme, la faute est imputable aux responsables directs, mais en revanche, disons, des causes plus lointaines sont inaperçues, et en particulier, je dirais presque le concert d'actions et de voix qui serait nécessaire au changement culturel majeur qui nous permettrait de renouveler des pratiques de soins de la nature, évidemment, n'est pas du tout au rendez-vous, il n'est pas mobilisé.
Voilà, dans son dernier livre, Joël Zask montre comment les feux, les incendies, qui sont évidemment une catastrophe naturelle, qui ont toujours accompagné l'histoire de la Terre et plus récemment de l'humanité, sont devenus des phénomènes sociaux. Et on l'entend, elle dit, à qui imputer la faute humaine? Et il y a une faute immédiate qu'on peut imputer aux pyromanes, par exemple, ou à ceux qui sont incapables d'éteindre un feu, comme l'a fait récemment Donald Trump pour les incendies en Californie. Mais il y a la faute du plus long terme, et c'est celle-ci qui est plus difficile à mettre en évidence. Et là encore, c'est l'une des entreprises, l'une des volontés de cet atlas de l'Anthropocène, François Gemène.
Tout à fait. Pour moi, une des images de l'année 2019, ça restera l'image de Scott Morrison, le Premier ministre australien, qui brandit dans le Parlement une pépite de charbon, parce qu'il a fait campagne précisément sur l'exploitation du charbon. Il a fait toute sa campagne électorale contre la transition énergétique.
Et donc, il y a d'ailleurs une grande mine de charbon qui doit ouvrir en Australie. Ça fait un grand débat encore plus en ce moment avec les incendies qui se déroulent.
Bien sûr. Et donc, tout son programme politique était fondé sur l'exploitation du charbon. Et donc, effectivement, on voit bien la responsabilité de cela. Une autre image tragique, ce furent ces incendies en Californie en octobre, et où on voyait les familles américaines qui fouillaient leur domicile dans des SUV, qui sont donc les véhicules qui sont les principaux responsables de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis et en France. Et on voit bien tout le paradoxe, quelque part, qu'ils utilisaient pour fuir ce qui avait, d'une certaine manière, causé leur malheur.
Mais comment faire prendre conscience de cela, de ce que vous dites, c'est-à-dire comment concilier finalement le constat scientifique, le constat politique, alors qu'on vit dans un monde de crise à répétition, la crise sans fin, disait dans un ouvrage récent la philosophe, une autre philosophe, Myriam Revaud-Allonne. Avant la crise, dans son acception scientifique, c'était ce moment où tout allait se terminer, soit en bien, soit en mal, mais enfin voilà, c'était la pax d'un phénomène qui nous amenait vers le mieux ou le moins bien. Maintenant, la crise est devenue un phénomène permanent. Il y a quelque chose de tout à fait désespérant à la fois dans ce constat et dans ce que vous dites dans l'Atlas de l'Anthropocène, c'est-à-dire ce qu'on agit maintenant, mais les effets qu'on subit datent d'hier.
La réalité, c'est que nous ne sommes pas en crise. La crise, elle suppose qu'on puisse revenir en arrière. La crise suppose quelque chose d'éphémère, de temporaire, qui permette un retour à l'état pristin. Nous sommes dans une transformation profonde de la Terre qui est inéluctable. Il n'y aura pas de retour en arrière. Les températures ne vont pas redescendre, le niveau de la mer ne va pas redescendre. Et donc, c'est pour ça que je n'aime pas ce terme de crise climatique ou d'urgence climatique, parce que il ne permet pas de saisir la transformation profonde que nous avons engagé et dont nous sommes acteurs. Et c'est là, je crois, la richesse conceptuelle de l'Anthropocène, c'est qu'il permet précisément ce changement d'échelle. Et un des gros problèmes que nous avons, c'est ce changement d'échelle de temps. Nous ne pouvons pas faire l'expérience directe des conséquences de nos actions, puisque nous faisons aujourd'hui l'expérience des conséquences des actions menées il y a 50 ou 60 ans. Et donc, quelque part, l'échelle de temps du climat est une échelle qui nous dépasse, nous, humains, et qui dépasse encore plus l'échelle du temps politique en démocratie. 4 ou 5 ans, la durée d'un mandat. Et donc, ce que l'Anthropocène nous invite à faire, c'est à remettre en cause cette échelle de temps et, quelque part, à repousser nos frontières, que nos frontières soient des frontières temporelles ou géographique.
Pourtant, celles et ceux qui nous alertent aujourd'hui et qui font beaucoup pour cette prise de conscience, je pense évidemment à une autre figure de l'année qui est Greta Thunberg, l'activiste suédoise. On peut penser également à un autre mouvement comme Extinction Rebellion qui a récemment s'est manifesté encore récemment pour alerter sur le climat. Ce sont des personnes qui parlent de crise, qui nous amènent plutôt à considérer ce qui est en train de se passer sous cet angle de la crise.
Oui. Et qui sont aussi souvent des personnes jeunes. C'est-à-dire qu'il y a une forme de matérialisation des générations futures. On a toujours, effectivement, dit qu'il fallait préserver l'environnement ou le climat pour les générations futures. Nous ne l'avons pas fait. Et les générations futures, qui jusqu'ici étaient quelque part un objet un peu abstrait, eh bien, elles manifestent désormais dans la rue. Elles sont en grève scolaire. Et donc, il y a aussi ce choc des échelles de temps avec Greta Thunberg et tous les jeunes qu'elle entraîne à sa suite. Mais ne nous méprenons pas là-dessus non plus. Quelle que soit la popularité de Greta Thunberg, elle ne représente pas encore la majorité des jeunes de la planète. Et donc, il y a une vraie question aussi de majorité démocratique. Comment est-ce que nous construisons, quelque part, ce destin commun ?
Mais alors justement, puisqu'on parle d'un atlas aujourd'hui, est-ce que ça vous paraît possible, puisque ce que montre cet atlas de l'Anthropocène, c'est que on va dire que les pollueurs sont au nord, les effets sont au sud, pour le dire de manière très rapide, même si on voit bien qu'on subit aussi les effets dans les pays dits du nord, si on y compte l'Australie, ce qui est quand même un peu aberrant, mais enfin voilà.
L'Australie et la Nouvelle-Zélande font partie du nord qui n'est plus géographique,
oui,
mais qui est un concept politique.
C'est un concept politique, exactement. Non, mais comme on parle d'un atlas, il faut quand même essayer d'être un peu rigoureux sur les termes. François Jemel. Mais voilà, comment trouver ce consensus que vous appelez de vos voeux, trouver une jeunesse par exemple qui serait entièrement d'accord et peut-être à l'avenir qui permettrait de donner des dirigeants politiques un peu plus sensibles aux questions climatiques et plus largement aux questions d'environnement quand les effets subis sont aussi différents?
La première étape, je crois, pour trouver ce consensus, c'est que tout le monde ait conscience des données du problème. Et donc ça, c'est vraiment l'ambition de l'Atlas, et on espère qu'il y aura d'autres travaux de ce type, pour qu'il y ait, en quelque sorte, une base commune sur laquelle s'appuyer pour agir. Ensuite, effectivement, il va y avoir des divergences quant aux moyens d'agir, quant aux moyens d'action. Et là, il va s'agir, je crois, de construire un vrai projet cosmopolitique. Le problème aujourd'hui, c'est que chacun voit le changement climatique à sa porte et conçoit son action souvent dans les limites de sa génération et dans les limites de son pays. On dit nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Chacun doit faire sa part, en quelque sorte, comme si notre action se réduisait à nous-mêmes. Le grand enjeu, je crois, c'est de pouvoir dépasser ces frontières temporelles et géographiques pour conduire un vrai projet cosmopolitique, c'est-à-dire un projet dans lequel nous considérons que l'autre, qui habite dans un pays lointain ou qui fait partie d'une autre génération que la nôtre, fait partie de la même humanité que nous, cette humanité qui habite la Terre.
Mais on en est loin, François Jemel. La COP25 s'est déroulée à Madrid du 2 au 14 décembre et ça a été un échec cuisant.
Une nouvelle réunion en grande pompe, pour rien ou presque. La COP25 referme ses portes sans accord majeur. Deux jours de négociations supplémentaires n'auront donc pas suffi. Les conseillers épuisés sont désabusés.
Malheureusement, nous n'avons pas pu parvenir à un accord sur cet article important.
Cet article important, l'article 6, était l'un des principaux objectifs de cette COP25. C'est lui qui prévoyait la mise en place d'un marché carbone et la mise en place d'un prix des émissions de CO2. Échec donc, les négociations sur ce sujet sont donc repoussées à l'année prochaine à Glasgow, lieu de la future COP26. Si les négociateurs n'ont pas voulu pointer du doigt les responsables de cet échec, certains n'ont pas manqué de les dénoncer.
Le président américain Trump et le président brésilien Bolsonaro ont sapé ces négociations ici. Et ils vont continuer à le faire jusqu'à l'année prochaine. Nous avons besoin d'une réponse différente de la part des économies fortes comme l'Union européenne.
Voilà, on entend cet échec de la COP25. La deuxième partie de votre atlas de l'Anthropocène, François Jemel, est consacrée au trou dans la couche d'ozone, ce qui est un peu la première tentative véritable de gouvernance internationale sur un problème environnemental, et une tentative qui a réussi, puisqu'on a réussi à réduire et presque même à faire disparaître le trou dans la couche d'ozone. Là, on entend qu'on n'est plus du tout dans cette période-là.
On n'est plus du tout dans cette période-là. Effectivement, la période des négociations sur le trou, la résorption du trou dans la couche d'ozone, donc à partir de la fin des années 80, effectivement marque en quelque sorte un âge d'or de la coopération internationale, où il y a d'une part la fin de la guerre froide, l'effondrement de l'URSS, mais la volonté renouvelée de s'engager vers des formes de gouvernance mondiale, comme on en parlait à l'époque. On parle même d'un village global à l'époque, et chacun se rêve en citoyen du monde. Nous sommes très loin de cette époque, nous sommes très à rebours de cette époque qui a sans doute été le moment où on était le plus avancé dans la construction d'un projet cosmopolitique et qui a permis des succès comme le protocole de Montréal sur le trou dans la couche d'ozone, qui a permis aussi le succès du sommet de Rio avec des conventions sur le climat, sur la biodiversité et sur la désertification. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons une résurgence très forte des nationalismes qui, je crois, sont la menace la plus grave qui pèse sur les questions d'environnement.
Mais alors justement, comment expliquer convergence entre les nationalismes, les identitarismes, pourrait-on dire, et l'opposition à toute mesure sur le réchauffement climatique? Dans un livre qui a succès, un Américain, Nathaniel Rich, avait montré, qui s'appelle « Comment perdre la Terre », avait montré qu'à un moment, les conservateurs américains, par exemple, s'étaient dit « bah voilà, le conservatisme, ça peut être aussi conserver la planète ». Et il y a quelque chose qui s'est passé, qui a fait que finalement, non, aujourd'hui, on a plutôt un Donald Trump.
Ce qui s'est passé est très simple à expliquer. C'est l'émergence du néolibéralisme. Et effectivement, aux États-Unis, les premiers courants environnementaux sont issus du Parti républicain, parce qu'on le voit comme une sorte de prolongation de l'idéal conservateur. Il s'agit non seulement de conserver l'ordre établi, nos valeurs, mais de conserver aussi la terre. Et le néolibéralisme a quelque part chamboulé tout cela et quelque part remis complètement à plat les affiliations de gauche et de droite que l'on pouvait avoir par rapport à l'environnement. Et aujourd'hui, on feint de s'étonner de l'échec de la COP25, alors qu'en réalité, on pouvait s'y attendre. Beaucoup de gouvernements à cette COP25 avaient pour mandat, un mandat confié par leurs électeurs, de faire échouer cette COP25. C'était le cas du président Bolsonaro, du premier ministre australien Scott Morrison, du président Trump, évidemment, qui sont venus à la COP avec l'intention et le mandat de la faire échouer. Et aujourd'hui, on feint de s'en étonner. J'ai envie de dire que nous sommes trop naïfs par rapport à cela. Et donc, vous dites à raison qu'on est très très loin de ce projet cosmopolitique et en quelque sorte, c'est le privilège du chercheur sur France Culture de pouvoir définir les lignes de ce que serait un projet idéal. Je ne suis pas évidemment dans la position du négociateur. Je crois que pour y arriver, il faut aussi pouvoir se doter d'échéances moins lointaines que 2050 ou 2100, qui au fond ne veulent rien dire pour les gens et pour les électeurs, et pouvoir se donner des échéances plus proches, de manière à mesurer notre capacité à nous replacer sur la bonne trajectoire ou à corriger nos déviations.
France Culture, la grande table. Raphaël Bourgois.
À 13h21 sur France Culture, on parle avec le chercheur François Gemène, auteur de l'Atlas de l'Anthropocène, co-dirigé avec Alexandra Rankovitch et l'atelier de cartographie de Sciences Po. On parle donc d'environnement et puisque vous ouvrez quand même malgré tout une porte, François Gemène, sur la possibilité de faire quelque chose, d'agir et vous inviter à des échéances peut-être un peu moins lointaines, que pensez-vous de l'initiative d'Ursula von der Leyen, la nouvelle commissaire européenne, dévoilée au Parlement européen de ce Green Deal? On voit que c'est aussi le Green New Deal, c'est aussi un enjeu des élections américaines, en tout cas des primaires démocrates, avec cette députée américaine AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, qui porte ce mouvement, cette idée. Que pensez-vous de cette idée donc d'un Green New Deal?
J'en salue l'approche et j'en déplore l'insuffisance des objectifs. Il y a quelque chose de très important dans la manière dont la Commission va envisager ses politiques climatiques. Pour la première fois, ces politiques ne sont plus considérées comme étant des politiques techniques ou spécifiques dans un silo environnemental, mais comme des politiques qui vont véritablement abreuver l'ensemble des politiques que va déployer la Commission européenne pendant son mandat. Cela me semble fondamentalement important parce que, pour la première fois, on considère la question du climat comme une question matricielle, c'est-à-dire une question dont vont dépendre toutes les autres. Et donc, en termes d'approche, c'est extraordinairement important. Et symboliquement, c'est aussi important que ce soit une des premières mesures proposées par la Commission. Maintenant, on peut aller plus loin. Je crois qu'en termes d'objectifs, on n'est pas encore là. On n'est pas encore sur la trajectoire qui nous permettrait de nous remettre dans les clous des objectifs de l'accord de Paris. Donc, il faut aller plus loin dans les objectifs.
Mais cette trajectoire est-elle véritablement possible? Est-il véritablement possible de la vendre, j'allais dire, aux Européens? C'est-à-dire qu'elle supposerait tout un tas de changements de modèle politique, de changements de modèle économique. Et il y a un gros mot qui est celui de décroissance, que aucun homme politique ou femme politique ne se risquerait à prononcer aujourd'hui, et qui pourtant est central, si on veut, manifestement, en croire l'Atlas de l'Anthropocène que j'ai entre les mains, si on veut atteindre ces objectifs que vous définissez, François Gemène, enfin que définit le GIEC, c'est pas vous qui les définissez.
Il faut absolument le conserver comme une balise morale. C'est en quelque sorte comme les droits humains. Nous savons que les droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme sont bafoués chaque jour dans chaque pays. Et nous savons que dans un monde idéal, ce sera un monde où l'ensemble de ces droits seraient respectés tous les jours dans tous les pays. Je crois qu'il faut voir l'accord de Paris comme une sorte de mise à jour de cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous savons que cet objectif de 2 degrés ou d'un degré et demi sera extraordinairement difficile à atteindre et que sans doute nous n'y arriverons pas. Il faut néanmoins le garder comme une balise morale qui nous indique, qui donne un sens à l'histoire, dans les deux acceptions du terme, qui lui donne à la fois une signification et une direction, et qui nous dit que toute action que nous mènerions et qui nous conduirait à dépasser cette augmentation de 2 degrés, eh bien elle serait contraire à l'histoire. Et donc, pour moi, l'accord de Paris, c'est en quelque sorte un aggiornamento de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est une balise morale.
Parce que votre sixième partie dans l'Atlas de l'Anthropocène est consacrée justement à ces questions un peu taboues qu'on aborde rarement. C'est la question démographique, par exemple, sur le réchauffement climatique, la question des modes de consommation, le fait que toute évolution, évidemment, on aime à mettre en cause les pays riches ou les plus riches d'entre nous. Mais ça va toucher, les changements vont toucher aussi les plus pauvres, nécessairement, François Gemène. Il y a encore beaucoup de tabous sur cette question, sur ces questions.
Chaque fois que je donne une conférence publique sur le changement climatique, il y a toujours quelqu'un dans l'assistance qui lève sa main et qui pose une question sur la démographie en disant « Ah, la démographie, c'est un grand tabou, pourquoi est-ce qu'on n'en parle jamais? Pourquoi est-ce qu'on a peur d'en parler ?» La réalité, c'est que ce n'est pas une question tabou, mais que c'est une question plus complexe que la simple question de la multiplication des individus sur la planète. La vraie question, c'est de savoir comment chacun vit. Et quand on regarde aujourd'hui les émissions de gaz à effet de serre, la majorité de ces émissions, 70%, sont produites par une minorité d'habitants, 1 milliard d'individus. Et le continent avec la plus forte croissance démographique, l'Afrique, c'est aussi le continent avec la plus faible croissance de ces émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est pour ça que nous avons voulu, dans l'Atlas, consacrer un chapitre entier à ces questions de démographie pour dire, bien sûr, ce sont des questions importantes, mais ce sont des questions qui nécessitent de dépasser la simple logique comptable des individus.
La simple logique comptable des individus, François Gemène, malgré tout, c'est vrai que ça invite à penser aussi la question migratoire, qui est une de vos questions, des questions centrales à laquelle vous intéressez depuis un certain nombre d'années. Et là aussi, on se heurte à la fois à la dimension politique, la dimension idéologique et un certain nombre de prérequis comme on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, même si on doit y prendre sa part.
La question des migrations et la question du climat, ou plus globalement la question de l'environnement, ce sont deux questions qui posent exactement les mêmes enjeux. Et cet enjeu, c'est la place que nous réservons à l'autre.
Est-ce
que nous
considérons... Et la question des frontières aussi.
Et la question des frontières. Est-ce que nous considérons que celui qui se trouve à l'extérieur de nos frontières, est-ce que nous considérons que celui-là est une partie de nous-mêmes, fait humanité avec nous, ou est-ce que nous le considérons comme un étranger par rapport auquel nous n'avons pas de responsabilité particulière? Et c'est pour ça qu'effectivement, les questions de gouvernance mondiale, de collaboration internationale et de frontières sont centrales à la fois sur la question du climat et sur la question des migrations, parce que ce sont deux questions qui nous renvoient fondamentalement à notre identité collective. Et c'est là où l'Anthropocène peut nous apporter des réponses. Est-ce que nous allons pouvoir définir cette identité collective avant tout comme une identité de terrien et de terrienne?
De terrien et de terrienne sont les mots, notamment de Bruno Latour, qui signe la postface de l'Atlas de l'Anthropocène. François Gemène, que vous signez avec Alexander Rankovic, et l'atelier de cartographie de Sciences Po. C'est publié aux presses de Sciences Po. Merci d'être venu en parler pour cette dernière émission de l'année. Il y en aura d'autres, évidemment, souhaitons-le, d'ici la fin des temps. Voilà, la programmation de la Grande Table des Jean-Christophe Briançon et Laura Dutèche-Pérez. Programmation et préparation de la Grande Table Culture, Sophie-Catherine Gallet et Jeanne Copé, avec l'aide précieuse de Sophie Marty et François Bérus. À la réalisation aujourd'hui, c'était Éric Lancin, et à la prise de son, Valentin Bobinet. Merci beaucoup encore une fois, François Gemène. On se retrouve dès demain.